que vous aussi, ça peut vous arriver, RTL vous aide efficacement.
RTL, ça peut vous arriver.
Appelez le 3210.
Et vous, Maître Féloneau, vous êtes bien discrète.
Alors
que chacun raconte ce qu'il a fait hier soir.
Mais rien, moi.
Bon, parfait, vous avez réussi.
Dites, qu'ici, vous savez
j'ai
bien.
Étudié les cas pour aujourd'hui, c'est ce qu'il faut dire.
Ouais.
Personne n'est dupe, mais c'est ce qu'il faut dire quand même.
Oui, voilà.
Maître Féloneau, avocate, est donc avec nous. Il est 9h32, nous sommes en direct. Vous avez choisi RTL. Faites vite le 3210, nous allons vous aider à régler tous vos problèmes. Opération duplex, mesdames et messieurs, pour démarrer, avec Jean-Marc qui est en ligne. Jean-Marc, bonjour.
Allô, bonjour Julien.
Jean-Marc, RTL est là pour vous aider. Une opération duplex va démarrer dans une seconde, en janvier. Jean-Marc, vous cherchez une complémentaire santé. Vous faites des recherches sur Internet et contactez un cabinet de courtage. En fait, vous êtes tétraplégique et vous recherchez une mutuelle qui puisse vous rembourser au mieux le forfait journalier du foyer où vous vivez. Le cabinet que vous contactez vous assure que cela rentre dans les conditions de l'assurance qu'on vous propose. Et à la fin de la communication, vous expliquez être intéressé et demandez un formulaire par courrier. À ce moment... là, personne ne prend des renseignements sur vous, dont votre RIB. Donc je n'ai rien compris à cette phrase, je vais la relire. À ce moment, virgule, la personne prend des renseignements sur vous, dont votre RIB. Comme quoi la place d'une virgule peut changer complètement le sens.
Ah bah oui, c'est la subtilité de la langue française.
Et là, je l'ai lu sans la lire. Vous n'avez jamais renvoyé, parce que quand même, il faut le dire aux auditeurs, je lis, là, je n'improvise pas un récit comme ça sans connaître Jean-Marc. C'est-à-dire que je n'ai pas une espèce de don de voyance qui fait que quand j'entends la voix de l'auditeur, je suis capable de raconter son histoire. Vous n'avez jamais renvoyé l'inscription ni l'autorisation de prélèvement, car il s'avère que le contrat n'était pas semblable à ce qu'on vous avait proposé au téléphone. En deux mots, Jean-Marc, qu'est-ce qu'il y avait de différent ?
Mais disons que je doutais un peu par rapport à plusieurs personnes qui m'avaient dit « fais attention », donc j'ai attendu pour voir si vraiment...
Et qu'est-ce qu'il y avait de différent, Jean-Marc ?
Eh ben, c'est-à-dire que sur le courrier, un courrier qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont dit qu'ils remboursaient aucun forfait de toute l'année.
D'accord.
Alors que sur Internet, il marquait bien qu'il remboursait 12 mois de l'année et c'était surligné en gras.
Et vous n'avez jamais du coup renvoyé l'inscription ni l'autorisation de prélèvement car il s'avère que le contrat n'était pas semblable. Pourtant, en septembre, vous vous apercevez que cette assurance vous a prélevé 3 mensualités de 59€, juin, juillet et août. Vous faites opposition pour les prochains prélèvements. Vous êtes alors à l'hôpital. C'est votre sœur qui prend l'affaire en main et tente de joindre le cabinet de courtage et l'assurance. Elle téléphone, on doit la rappeler. Ce n'est pas le cas. Elle envoie des fax, pas de réponse. Elle envoie des recommandés, mais là non plus, pas de réponse. Elle téléphone donc à la maison mère de l'assurance qui lui dit de se mettre en relation avec le cabinet de courtage. Et pour seule nouvelle, vous recevez le 3 décembre une mise en demeure de payer les mensualités. Alors aujourd'hui, vous avez envoyé toutes les pièces du dossier. Vous n'avez aucune réponse. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Vous voulez être remboursé car on vous a, peut-on parler abusivement au Maître Féloneau, prélever cet argent-là ou est-ce que le fait d'ouvrir un courrier finalement et d'avoir eu des renseignements au téléphone et de les avoir acceptés, c'est un contrat?
Moi, ce qui me chagrine un petit peu effectivement, c'est la façon dont s'est passée la souscription de ce contrat. Parce que très visiblement, les seuls documents que Jean-Marc nous envoie, c'est vraiment le contrat d'assurance avec la lettre qui dit « Monsieur, vous avez d'ores et déjà souscrit et adhéré au contrat santé Simo solidaire ». Ça voudrait dire que préalablement à l'envoi du contrat, et c'est comme ça que ça se fait en principe, qu'est-ce qu'on remplit comme contrat ? On remplit une proposition d'assurance. Si cette proposition d'assurance marque bien les garanties que vous voulez souscrire, le prix de la cotisation, que vous remplissez le questionnaire, tout ça avec votre assureur ou chez vous et que vous le renvoyez, vous avez d'ores et déjà un engagement vis-à-vis de votre assureur. L'acceptation de l'assureur fait que le contrat est définitif, même s'il n'a pas
donc là,
été signé.
Donc là, on peut vraiment réclamer quand même le...
Alors, Jean-Marc, moi, dans son histoire, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que visiblement, il n'a pas signé ou il n'a pas fait de proposition d'assurance. Et
d'accord.
En tout cas, ce qu'on lui a envoyé n'est pas conforme à ce qu'il souhaitait souscrire.
Bon, en tout cas, Jean-Marc, vous nous garantissez que vous n'avez rien signé.
Rien signé, je n'ai rien, oui.
Bon.
J'ai tout gardé, les documents originaux, je les ai même encore, donc j'ai pu vous faire des...
D'accord.
Vous fournir des photocopies. Et en plus, bon, je vous dis, sur Internet, ça apparaissait bien en gras. Donc le gars, la personne que j'ai eu au téléphone, J'ai dit, vous me certifiez que 12 mois sur 12, vous remboursez le forfait journalier.
De toute façon, là-dessus, à la rigueur, ça, Jean-Marc, ce qui a été dit, peu importe, vous n'avez rien signé, c'est ce qui nous importe. Et nous allons donner la parole tout de suite à Julie Poujol, notre journaliste, qui va lancer cette opération duplex. Bonjour Julie.
Bonjour Julie. Alors moi, juste une petite précision, je suis bien devant la maison mère de l'assurance, c'est important de le préciser. J'entre à l'instant, je vais me présenter à l'accueil principal, puisque c'est un énorme bâtiment. Bonjour madame, pardon de vous déranger. Je suis Julie Poujol, journaliste de Julien Courbet. Nous sommes en direct sur RTL. J'aimerais rencontrer un responsable de Covéa Risque, si c'est possible. Nous sommes en train de traiter un dossier sur l'antenne, celui de Jean-Marc Erignac. Est-ce que vous souhaitez que je vous passe Julien Courbet, peut-être ? Vous avez l'air... ne me croyez pas ?
Alors, ce que je vous propose, Julie, c'est parce que cette dame est un peu surprise, elle ne doit pas vous croire. Bernard, lui, en parallèle, va quand même appeler à ce numéro où vous vous trouvez pour bien leur expliquer que ce n'est pas une blague. Et on se retrouve dans une seconde avec un interlocuteur ou une interlocutrice. À tout de suite, Jean-Marc, à tout de suite, Julie. Bon, et à tout de suite, Maître Felloneau.
Oui.
Ça va ou bien?
Mais oui, ça va très bien.
Maître Felloneau a passé un week-end en Suisse, alors maintenant, elle nous parle comme ça, donc je vais essayer de m'adapter, mais je vous assure. Elle est allée deux jours en Suisse, elle est revenue, elle me
j'adore.
Fait. Mais dans un petit chalet, parce qu'elle était surprise, parce qu'on avait changé.
Chalet. Ça m'a tellement plu.
Non, dans un petit chalet. Ça va ou bien? Allez, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. D'ailleurs, nous allons faire une matinée. Ça va ou bien?
Oui.
Je demande à tous les auditeurs qui passeront sur l'antenne de bien vouloir, lorsqu'ils disent bonjour Julien, de me demander si ça va ou bien. 9h37 sur RTL. Oh, mais non, dans un petit chalet, il faut faire la pub. Alors. Revenons à des choses moins drôles. L'opération duplex, malheureusement, pour l'instant, pas d'interlocuteur ou triste, Julie, avec vous.
Non, pas pour l'instant, mais en tous les cas, tout le monde est au courant et on m'a promis de descendre, quelqu'un descende rapidement.
Bon, alors ça, d'accord. C'est une demi. Non, mais c'est une bonne nouvelle. Je pensais que personne ne voulait parler. En fait, ils sont en train de. Et nous sommes venus à l'improviste. Il est bien normal que nous leur laissions un petit peu de temps pour descendre. Donc vous pensez, vous l'évaluez à combien ce temps, Julie?
Alors moi, je dirais entre 3 et 5 minutes, j'espère, en tous les cas. On m'a dit tout de suite.
D'accord. Grâce à votre montre Timex, offerte par votre fiancé dans un bureau de tabac. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous patientons quelques instants, Julie.
D'accord, ça marche.
Ça ne sert à rien peut-être d'appeler le courtier, quoique. Qu'en dites-vous, Maître Felloneau?
Moi, j'aurais bien aimé, parce que ce sont les conditions de souscription de ce contrat qui a été fait chez le courtier qui me chagrine un peu.
C'est surtout parce qu'il y a peut-être une chance qu'il soit célibataire. Et c'est pour ça que vous voulez absolument l'appeler. On y va. On y va, Bernard. Ah, oh, j'y suis. Allô?
Oui, bonjour.
Le cabinet de courtage?
Tout à fait.
Bonjour, madame. Je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Pardonnez-moi de vous déranger. Je suis aux côtés de Maître Felloneau. Nous essayons d'aider un auditeur, Monsieur Jean-Marc Erignac. Maître Felloneau vous explique les tenants et les aboutissants rapidement.
Voilà, bonjour madame. Allô ?
Je vous écoute.
Ah oui, bonjour. Alors Jean-Marc a souscrit et va vous a contacté parce qu'après des recherches sur internet, il souhaitait que son forfait maison de repos où il séjourne parce qu'il est tétraplégique soit pris en charge à 100%. Et c'est dans ces conditions que après avoir fait quelques recherches, il a décidé d'appeler votre cabinet de courtage pour prendre des renseignements. Il s'avère que il a pris des renseignements, il a bien indiqué ce qu'il souhaitait comme assurance, qu'on lui a garanti que ce qu'il souhaitait, eh bien vous pouviez le lui assurer, et vous lui avez demandé divers renseignements, évidemment, dont notamment un RIB, et il a donné tout ça par téléphone. Le temps se passe, et il a reçu un contrat d'assurance signé par la compagnie qui démontrerait qu'en réalité, le contrat s'est formé tout naturellement, et qu'il s'est retrouvé assuré bien malgré lui, car visiblement, le contrat envoyé par la compagnie n'est pas conforme à ses souhaits. Donc on est dans ces conditions avec un monsieur qui n'est pas assuré, qui doit quand même payer ses primes, qui fait l'objet de poursuites de la part de la compagnie d'assurance et qui n'arrive pas à avoir, malgré ses nombreux courriers en recommandé à R, de relations normales avec la compagnie qui fait un silence radio.
Alors, madame, est-ce qu'on pourrait parler à quelqu'un éventuellement pour essayer d'avancer dans ce dossier qui n'est pas très compliqué puisque les sommes ne sont pas énormes non plus ?
Bien sûr, juste un instant.
Merci madame. Bon, alors, ça tombe bien. Cette dame cherche de son côté. Chez Julie, on cherche aussi. S'ils arrivent tous en même temps, nous allons être bien embêtés, car nous aurons 65 personnes qui voudront parler sur ce dossier. RTL, 10h moins le quart, nous sommes là pour vous aider. Marjorie, demain, c'est une spéciale voiture.
Spéciale voiture et surtout, jeudi, très important, c'est une spéciale voyage. Alors vous nous appelez tout de suite pour nous exposer
10.
Tous vos problèmes de voyage.
Week-end, voyage, avion, train, gîte, tout ce que vous voulez, tout ce qui concerne le voyage et le loisir, ça sera jeudi au 32-10. Julie, vous me dites qu'éventuellement, il y aura quelqu'un dans une seconde?
Oui, je pense, Julien.
Allez, ça marche. Après cette pause, à tout de suite. 10h moins le quart, 32-10, c'est RTL. À votre service, mesdames et messieurs.
Opération Duplex en direct sur RTL. Sur le terrain ce matin, retrouvez Julie Poujol.
Qui a peut-être un interlocuteur pour aider Jean-Marc, l'auditeur d'RTL. Julie, nous vous écoutons.
Alors, en fait, la personne vient de me dire que finalement, elle n'était pas habilitée à prendre le téléphone pour vous parler. De toutes les manières, elle nous a dirigé vers le service de presse de son groupe, puisqu'elle ne peut pas nous donner de plus amples informations sur ce dossier.
L'assurance est Covéa Risque. Le cabinet de courtage, c'est Direct Courtage à Marseille. Faisons le point. Côté Covéa Risque, donc, vous y êtes. On vous dit qu'on ne veut plus vous parler, Julie. Et on nous dit de nous adresser à la direction de la communication. Qu'en est-il, Bernard ?
Alors, je viens d'avoir le service de presse qui, évidemment, n'est pas au courant de la situation.
Ça,
on va lui envoyer un fax. Ils peuvent nous répondre, je pense, dans le courant de la matinée. Quant au cabinet de courtage, c'est la même chose. J'ai donné toutes les coordonnées. J'ai donné également notre numéro en studio. On attend une réponse avant 11h30.
C'est un petit peu idiot parce qu'on parle de 3 mensualités quand même de 59 euros pour ce monsieur tétraplégique. Je pense qu'on aurait pu aller un petit peu plus vite. Maintenant, est-ce que ça relève du tribunal de proximité,
alors,
Maître Fellonio?
Attendez. Là, il y a des prélèvements qui ont été faits sans l'autorisation, en tout cas. Même
et la banque, d'ailleurs.
Oui, mais... Justement, il y a des tas de choses assez nébuleuses.
Je vous pose la question.
Il y a aucune. Il a transmis ses coordonnées bancaires par téléphone.
Ça serait intéressant d'appeler la banque.
Il a refusé de signer l'autorisation de prélèvement. Donc on se demande. Moi, je l'ai dans le dossier, mais vierge. Donc on se demande comment c'est possible. Mais Julien, l'intérêt était quand même supérieur à 3 fois 59 euros. En fait, parce que la compagnie d'assurance lui demande l'intégralité des primes.
Oui.
En disant, je suis désolé, vous avez signé un contrat
moi,
et vous devez payer les primes, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas.
Alors. On continue. De toute façon, Jean-Marc, on est avec vous jusqu'à la fin de cette émission. Ne vous inquiétez pas, nous allons avancer. Moi, votre banque, est-ce que vous leur avez demandé, Jean-Marc, pourquoi avez-vous accepté ces prélèvements? Puisque je n'ai pas signé.
À l'époque où j'étais à l'hôpital, donc c'est ma sœur qui s'occupait de ça. Et c'est vrai que nous, on a fait tout de suite opposition.
Vous ne leur avez pas demandé de vous justifier le prélèvement, puisqu'ils ont laissé sortir de l'argent de votre compte.
Je ne sais pas si lui l'a fait, je ne peux pas vous dire.
Bon, alors vous pouvez peut-être nous donner les coordonnées de votre banque, on va les retrouver téléphoniquement.
Hors antenne,
vous allez nous les donner. Alors, on continue, Jean-Marc, vous restez près du téléphone avec Julie. Julie, pas de nouveau ?
Non, mais moi je reste sur place. Si jamais un interlocuteur souhaite me parler, je suis en bas.
Et là, on attend que le cabinet de courtage ou Covéa Risque nous rappelle.
Oui,
et on va essayer d'appeler la banque en antenne.
Je rappelle à l'attention de Julie, là, si quelqu'un daigne lui parler, que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le contrat qu'il voulait souscrire, eh bien, en réalité, on lui fait payer pour rien, puisqu'il l'a pris pour qu'il y ait une participation à ses frais de séjour en maison d'accueil spécialisée, et l'assurance lui répond, ce n'est pas un hôpital. Je ne dois pas donc vous payer. Donc c'est quand même le comble du comble, c'est-à-dire qu'on l'a trompé ou qu'il y a une mésentente lors de la conclusion du contrat et il faut donc l'annuler purement et simplement.
Allez, on appelle dans une seconde, on va attaquer un autre cas également et puis on fera aussi des points sur les gros dossiers. Il y a deux dossiers banques notamment qui méritent que l'on s'y arrête une nouvelle fois, c'est notamment le Crédit Mutuel avec la procuration, cette dame qui dit
Lucienne.
Une de mes filles m'a piqué de l'argent, elle le dit elle-même, c'est pas nous qui l'inventons, c'est elle qui nous le dit. En allant chercher des sous avec une procuration que je n'ai jamais signée. Donc nous, on se tourne vers la banque Crédit Mutuel en disant donnez cette procuration si elle existe ou si elle n'existe pas. Impossible de lui donner. Elle a même envoyé un huissier, ils n'ont pas voulu lui donner. Donc on attend toujours des nouvelles du Crédit Mutuel. Je ne pense pas, soit elle a été perdue, soit elle n'existe pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. D'autant plus qu'il y a une fille, du coup, qui n'est pas contente parce qu'elle se fait accuser à la radio par sa mère de lui avoir piqué du...
Et elle nous a fait une réponse par l'intermédiaire d'un avocat qui a dit écoutez, moi, je conteste même l'existence de cette procuration. Et elle dit qu'effectivement, elle a fait des mouvements sur le compte de sa mère à la demande de sa mère, en présence de sa mère.
C'est quand même incroyable.
Pour souscrire des assurances.
Qu'une banque comme ça ne soit pas capable de dire il y a eu une procuration ou il n'y en a pas.
Exactement.
Bon, ça, je trouve ça même assez inquiétant. Deuxième dossier, c'est le dossier Société Générale avec ce jeune garçon. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Qui a vendu un piano par Internet.
On aura une réponse ce matin. Restez bien avant
11h30. Ah, mais moi, je vais rester de toute façon parce que je suis payé pour ça. Maintenant, les gens, il ne faut pas leur demander l'impossible non plus. De rester jusqu'au bout de l'émission. Enfin, moi, je me suis amusé. Une fois, elle était enregistrée à l'écouter. J'ai tenu, 3-4 minutes. C'est insupportable, après. Et rapidement, mais je vous assure, Maître Fellono, quand vous parlez, quand je parle, ça n'a ni queue ni tête, cette émission. C'est inécoutable. Et des gens restent jusqu'à... Des fois, écoute, la durée d'écoute, c'est vrai que c'est l'une des plus importantes de France, de cette émission. C'est, je sais plus, 1h22, mais comment font-ils, Les postes sont bloqués, c'est pas possible autrement.
C'est des blagues,
c'est votre humour, je pense.
Je ne crois pas. Je crois qu'ils le font par charité chrétienne. À la seconde près, RTL 10h.
Parce qu'à vous aussi, ça peut vous arriver. RTL vous aide efficacement.
RTL, ça peut vous arriver.
Appelez le 3210.
Alors, Maître Fellono a dit deux mots à François Zikovic, qui est directeur de la communication MMA, qui chapeaute, je suppose, ce groupe d'assurance et que nous remercions d'être sur l'antenne. Bonjour, Françoise. Allô? Allô, allô.
Elle recherche le dossier parce que nous avons essayé de lui résumer la situation, mais j'ai pas eu le temps de finir ma phrase.
Ah ben oui, parce que vous êtes
alors
sur l'antenne.
La pauvre.
Ah ben, on va lui redire, Françoise. Vous m'entendez, Madame Mikovic?
Oui, je suis en ligne.
Oui.
Vous m'entendez?
Oui, je vous entends. On avait un petit problème technique. Donc, Maître Fellono, la malheureuse, n'a pas eu le temps de terminer le récit. Bon, il y a rien de très grave. C'est juste, je pense, un problème de compréhension entre un monsieur qui a donné des coordonnées au téléphone mais n'a rien signé et se retrouve aujourd'hui.
Avec un contrat qui ne lui sert à rien,
voilà,
d'abord, parce qu'on refuse de prendre en charge son forfait pour le séjour qu'il fait dans cette maison adulte handicapé, il est tétraplégique, car vous considérez, enfin, la compagnie d'assurance considère qu'il ne s'agit pas d'un hôpital et qu'elle elle ne prend pas en charge ce genre de frais médicaux. Donc, lui, il est assez déboussolé parce qu'il s'est douté, quand il a reçu le contrat de votre part, que quelque chose n'allait pas, il a refusé de le signer, il n'a pas signé l'autorisation de prélèvement bancaire, et malgré ça, trois prélèvements ont quand même été faits, et lorsqu'il a voulu dire mais écoutez, ça ne marche pas, je n'ai rien signé, vous ne me donnez pas les garanties que je souhaite, eh bien à ce moment-là ça a été silence radio de la part de la compagnie d'assurance, de la part du courtier à Marseille, et donc ça explique aujourd'hui qu'il soit venu vers nous en espérant que nous allions pouvoir rétablir le débat.
D'accord.
Alors comment peut-on avancer, Madame Mikovic?
Écoutez, moi ce que je peux vous assurer, c'est que nous allons regarder ce dossier dès tout à l'heure. Je ne connais pas du tout le problème de M. Irignac, mais rassurez-le sur le fait qu'on va s'en occuper tout de suite. Ce que je ne comprends pas bien, c'est s'il a signé, s'il est dans une maison, est-ce qu'il a signé auprès... Enfin, peu importe, on va regarder ça et on va s'occuper de ça.
Bon,
voilà.
On se reparle si vous avez du nouveau. Je vais vous passer Bernard Gigue.
D'accord. Okay. Locaux,
et
là,
on a on a Julie Pujol, Bernard va expliquer tout ça, qui peut-être peut avoir un interlocuteur. D'accord. En tout cas, merci d'avoir pris le téléphone et c'est tout à l'honneur d'MMA.
À bientôt.
À très bientôt. Jean-Marc, cette dame va jeter un coup d'œil à son dossier. Je l'espère, nous aurons peut-être, en 1h30, ça doit être jouable de jeter un petit coup d'œil à votre dossier. Nous aurons peut-être du nouveau, nous faisons tout pour. D'accord ?
Entendu, Julie.
Allez, à tout à l'heure, Julie, à tout à l'heure aussi, vous restez sur place.
Entendu.
D'accord, donc Jean-Marc fait à la fois son rôle et aussi celui de Julie, car c'est la crise, vous le savez, et nous ne pouvons plus payer du personnel comme ça en voiture.
C'est
voilà.
Comme
donc nous demandons à l'auditeur de faire l'animateur, l'auditeur lui-même et le troisième personnage. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, c'est moi qui fais quasiment tout dans l'émission, je suis seul, il n'y a même plus d'auditeurs, on n'a pas le moyen de se payer des lignes. Bonjour, c'est Julien Courbet, nous avons André en ligne.
Oui, bonjour Julien.
Oh André, dis donc, vous avez l'air d'avoir la pêche.
Oh oui, est-ce que Maître Fellono est là?
Oui, je suis là.
Vous voyez, là, voilà où on va.
Faites bien,
mais
faites
on
bien.
Y va, on y va tout droit.
C'est comme dans les supermarchés maintenant.
Exactement.
C'est automatique, il y a plus de caissière.
Et même pour un marchand de meubles, j'ai vu ça.
Ah oui.
Même les marchands de meubles.
Oui, ça fait un petit moment. Moi, j'ai essayé, j'étais inapte, j'ai appelé tout le monde, ça a été affreux.
Mais qu'est-ce que vous passez avec votre canapé tout seul?
Et voilà, exactement. Alors, il faut le biper, vous êtes jamais dans le bon sens, vous avez besoin de trois personnes pour retourner le truc. Non, mais c'est affreux. Ah. Mais bon, mais il y en a qui arrivent. Donc, je ne désespère pas.
En tout cas, je retiens que le jour où je ne serai pas dans le bon sens, je vous biperai. On se retrouve sur RTL dans quelques instants.
Julien Courbet, RTL, 9h30, 11h30.
Et nous accueillons Benoît sur l'antenne d'RTL. Benoît ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Benoît, vous êtes propriétaire d'une station de lavage. Dans quelle région, Benoît ?
Dans le Nord, à Cambrai.
Très bien. Alors, vous avez choisi un fournisseur d'électricité privé en 2003 qui vous prélève 490 € environ tous les deux mois.
C'est ça.
Au joli mois de mai dernier, ce fournisseur vous envoie un avis de prélèvement de 4 922 €. Donc on passe de 490 à 4 922. Alors vous appelez, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Il faut patienter, mais ils doivent prélever quand même. Alors ça aussi, un premier point, notez-le, Maître Fellono. Vous nous direz si on a le droit de dire, en attendant de vérifier, on prélève quand même. Vous rappelez la société en juin, Paris, puis juillet, et on vous dit que le dossier est en cours.
Oui.
En juillet, on vous propose de relever le compteur vous-même. Vous le faites plusieurs fois, mais cela ne sert à rien, car il faut attendre le passage d'EDF qui relève le compteur tous les 6 mois. Mais enfin, vous, quand vous l'avez relevé, est-ce que vous avez vu quelque chose d'anormal ?
Non, j'avais le relevé de compteur habituel que je relève toutes les semaines et il n'y avait pas d'évolution anormale.
Fin juillet, la société vous propose un avoir de 4 922 euros. En somme, on ne vous prélèverait plus jusqu'à ce que la somme soit atteinte. Grosso modo, on vous dit, payez ça et nous, tous les mois, enfin tous les deux mois, on prendra 490 là-dessus, ce qui fait que pendant presque un an, vous n'aurez rien à payer.
Oui.
Vous n'êtes pas satisfait, vous désirez le remboursement et refusez la proposition parce que c'est pas à vous de faire l'avance de trésorerie.
Ça fait quand même des sommes assez phénoménales hein, pour un artisan. C'est insupportable.
Bien sûr. Le 26 septembre, vous envoyez un recommandé. Si votre fournisseur ne vous rembourse pas dans 15 jours, vous stopperez les prélèvements. Et le 9 octobre, un relevé des compteurs est effectué par ERDF. Il y aurait bien une erreur. Malgré ça, votre fournisseur continue à prélever. En septembre, vous envoyez un recommandé. Si votre fournisseur ne vous rembourse pas dans les 15 jours, vous stopperez les prélèvements. Vous serez remboursé le 12 janvier lors du prochain avis de prélèvement, vous dit-on. Le 19, vous recevez cet avis, mais rien n'a changé. Vous arrêtez de payer. Du coup, évidemment, la machine se met en route, le service recouvrement, etc. Il n'était pas au courant qu'il y avait un litige. Il s'engage à faire le nécessaire. Vous arrêtez. Enfin bref, hein, vous êtes à bout de nerfs. On vous doit combien toujours à ce jour ?
Actuellement, si on déduit les deux mensualités que je n'ai pas payées, on doit aux alentours de 4 600-4 700 euros.
Alors, qui peut prouver qu'il y a effectivement eu une erreur ? Parce que je l'ai dit dans le récit, mais qu'est-ce qu'il prouve ?
Tout simplement pour eux, puisqu'aujourd'hui, ils sont au courant et depuis le début, ils reconnaissent qu'il y a eu une erreur, mais leurs procédures sont extrêmement longues.
C'est
donc,
pas
ils sont courants. Ils sont au courant tout d'abord parce que j'ai fait des auto-relèves qui m'ont demandé régulièrement. Et aussi depuis le mois d'octobre, puisque ERDF qui relève pour Boéo a donc relevé le compteur et ils ont eu le réel compteur et ils se sont rendu compte qu'il y avait donc une erreur depuis le mois de mai.
Alors,
2008.
Maître Fellonneau, nous allons intervenir et dans quelques instants nous ferons. Moi vouloir être le compteur de. Non, on appellera Powo. Mais en attendant, pouvez-vous donner, s'il vous plaît, un conseil ? Parce que j'ai l'impression que ma blague vient de faire fuir un nombre massif d'auditeurs. Et c'est même dangereux, me dit-on, car en faire partir autant d'un coup, on n'a pas la structure nécessaire pour faire partir autant d'auditeurs d'un coup. On m'a dit continuons à en perdre un petit peu chaque matin, mais pas trop.
Maintenant, mais laissons Benoît et quand même.
Non, mais Benoît, il sait qu'on va s'en occuper de son cas.
Alors, Benoît, effectivement, il a toutes les preuves dans son dossier, puisque. Il a constaté, lui, toutes les semaines qu'il n'avait pas de, consommation anormale venant de lui et que c'était des erreurs de la part de l'organisme. Il y a eu cette fois-ci un technicien qui s'est déplacé et qui a pu vérifier la réelle consommation. Donc, on le sait, c'est une erreur qui provient de l'organisme et de l'organisme seulement. Ils n'ont pas le droit de conserver par devers eux cette somme en disant bah, on retirera dessus chaque fois qu'on en aura besoin. Ils doivent rembourser, reconnaître leur erreur jusqu'au bout et s'ils ne le font pas, eh bien nous irons devant un tribunal, comme j'ai l'habitude de dire, mais aujourd'hui je pense qu'on devrait obtenir satisfaction.
Allez, c'est parti, l'appel est lancé, Benoît, nous les appelons. Alors là, je vais la faire maintenant. Ah ben non !
Bonjour et bienvenue.
Moi, je pensais qu'on aurait pas ouvert.
Si vous êtes un professionnel, tapez 1. Si vous êtes pour toute information relative à votre souscription chez Powéo, tapez
2. Allez-y, moi je fais l'animation musicale. Mais non, ils toussent pas Powéo dans le disque.
Pourquoi pas ?
Mais attendez. Allez, on se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL, le temps que ce répondeur se termine et que nous ayons un interlocuteur. 32-10, il est 10h18, nous sommes en direct, nous sommes jeudi 12 août 1979. A tout de suite sur RTL.
Ça peut vous arriver. Julien Courbet, RTL, 9h30, 11h30.
Faisons un point, Bernard. Vous étiez énervé il y a quelques instants parce que vous aviez un interlocuteur qui n'a pas voulu finalement vous parler.
Non, j'étais pas énervé, mais la publicité, la publicité sur le répondeur, c'est paraît-il le premier service client en France. Donc j'attendais des preuves, mais malheureusement j'en ai pas eu puisque là maintenant on m'a mis de la musique.
Donc là on est chez Powéo.
Absolument.
Ah, écoutons déjà le slogan. Pourquoi vous dites que c'est le premier
parce
service
que c'est ce qui est dit dans le, à un moment dans le répondeur.
C'est mort chez bas. C'est pas Rome ou Rosenbild the Day. Ça y ressemble en tout cas. Oui, enfin bon, ça n'intéresse pas nos auditeurs de savoir quel est le disque qu'a choisi Powéo. Comment peut-on faire pour avoir un interlocuteur ? Il vous a dit quoi ?
Qu'il allait chercher, qu'il allait étudier. Mais pourtant, il avait tout.
Vous
C'est un chercheur, peut-être. Il va dans les bureaux et il cherche un interlocuteur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Maurice? Oui, j'achète un interlocuteur.
Mais alors, on va voir si vous en trouvez un. A tout de suite sur l'antenne d'RTL, nous avons un autre cas de toute façon à lancer, je suppose, oui. Marjorie, car je vous ai vu rester très tard au bureau hier, puisque vous êtes parti vers 15h20, c'est que vous avez dû préparer plus de dossiers que d'habitude. Attends. Nicolas, rappelez-vous, a vendu un piano sur Internet, vous vous rappelez, mais le chèque qu'il a reçu est faux. Il demandait des comptes à sa banque, c'est la fameuse histoire de la Société Générale dont nous parlions tout à l'heure. Eh bien, aujourd'hui, la banque va nous parler. Tant mieux, c'est quand même mieux quand ça se passe comme ça dans le dialogue, même s'il ne nous donne pas raison. Et encore une fois, je le répète, le but du jeu, c'est pas de donner raison à RTL. Le but du jeu, c'est d'expliquer aux auditeurs ce qui se passe et de nous dire, monsieur, votre auditeur vous dit peut-être des bêtises, voici la vérité. Donc, nous les aurons...
Et Nicolas.
Nicolas, rendez-vous avec eux à 11h. Ce matin. Il n'est pas là, là, Nicolas. Si, vous êtes là, Nicolas? Nicolas?
Oui.
Vous êtes... Alors, vous avez donc rendez-vous avec la banque à 11h. Nicolas?
Oui. Oui, c'est moi.
Oui, ça, ça.
Mais je pense qu'il y a peut-être un problème de Nicolas, par contre.
Ah, c'est pas le bon Nicolas qu'on a appelé.
Comme oh, c'est drôle, hein, c'est marrant.
Oh, que
c'est,
on ne l'a jamais fait. Bon, vous n'êtes pas Nicolas Simco?
Non.
D'accord. Vous êtes, si c'est, vous n'êtes pas Simca, vous êtes quoi? Certes.
Nicolas.
D'accord. Non, non, mais je plaisante, Nicolas. On se retrouve dans quelques instants, le temps de trouver le bon Nicolas. Je vous prie de m'excuser, monsieur.
Mirabel va nous envoyer des mails, elle aura raison.
Mais Bernard Gilles, comprenez-le, n'a que 45 ans de boîte et il maîtrise tout juste le standard téléphonique. A tout de suite sur RTL, je vais me mettre au fond d'un trou, m'enterrer et me cacher de honte. Alors, nous revenons donc sur le bon Nicolas qui avait un petit souci avec ce piano, ce chèque envoyé. Il aurait demandé à sa banque de le vérifier. La banque l'aurait, je mets tout ça au conditionnel, vérifié, puis finalement après retiré de son compte. Donc, vous avez rendez-vous, on est bien d'accord, Nicolas, à 11h avec la Société Générale.
Bonjour Julien. Oui,
bonjour Nicolas. Alors nous avons reçu un mail avant votre rendez-vous. C'est pour ça que nous allons suivre avec vous en direct ce matin. Cher monsieur, suite à notre échange téléphonique de cette semaine, voici convenu notre réponse concernant le dossier de monsieur Simco repris dans votre émission. Le chèque dont il est question établi au nom de notre client avait toutes les caractéristiques d'un chèque classique. Ce n'est pas un chèque de banque. Il l'a remis lui-même à l'encaissement. L'agence n'avait pas de raison de suspecter un faux. Nous aurions pu agir autrement si toutefois le client avait explicitement demandé de vérifier la qualité du titre présenté au paiement en amont de l'encaissement. Et c'est ce qui me semble
que vous avez fait.
Bah oui, tout à fait. En fait,
vous reproche de ne pas avoir dit attention, vérifiez, soyez sympa.
Voilà. Non, mais en fait, en plus, c'est pas le cas puisqu'on a demandé à notre conseiller de vérifier et il se trouve qu'il était en vacances. Donc, on s'est rabattu sur les personnes qui étaient au guichet et bon. À la limite, peut-être qu'elle, ce n'est pas leur
qualité. Donc, retenez ça, vous et tous ceux qui nous écoutent, bien évidemment. Hein, faites à la rigueur un mail avant. Il faut qu'il y ait un écrit, parce que là encore, on va vous dire, vous ne l'avez pas fait. Toujours se débrouiller, envoyer un mail à sa banque. Je vais venir demain vous faire vérifier un chèque à telle heure pour qu'il y ait une trace écrite, qu'il n'y ait pas contestation. Bon, de toute façon... qu'on le veuille ou non, on rappelle quand même, Maître Filonneau, excusez-moi, la règle de base, parce que là, il y a marqué, nous n'avions pas à le vérifier, l'agence n'avait pas de raison de suspecter un faux, le job d'une banque, alors, c'est de vérifier tous les chèques. Hein.
Alors, effectivement, d'abord, elle doit le vérifier, oui. C'est vrai qu'elle a un certain délai pour le faire, mais en réalité, c'est tout à fait contredit par notre Benoît à nous, qui nous explique qu'au contraire, d'abord, il a présenté un chèque de banque, et si mes souvenirs sont bons, c'était un cas traité par Maître Malaisé, spécialiste en droit bancaire, qui nous a expliqué que, s'agissant d'un chèque qui venait d'Angleterre, c'est un chèque de banque, effectivement, d'office, et que c'était donc assez extraordinaire qu'il puisse être faux ou volé ou imité dans ces conditions-là. Donc c'est vrai que Benoît a pris toutes les précautions, Nicolas, pardon, a pris toutes les précautions, est allé voir son banquier, il n'est pas responsable que ce dernier soit en vacances. Donc le fait que ce soit des gens du guichet, on n'a pas à le savoir, on est responsable.
En tout cas, ils sont là pour essayer de trouver une solution, car ils veulent montrer que la banque, comme le dit la publicité, hein, d'ailleurs, s'occupe de ses clients, on va bien voir. Donc on se passe, j'espère que vous serez sortis à 11h30 ou sinon demain matin, d'accord Nicolas ?
Aucun problème.
Allez, merci.
Merci.
À tout de suite.
Au revoir.
Nous allons nous retrouver au 30 de 10.
C'est quand même incroyable qu'on puisse pas faire confiance à son banquier qui est quand même comme un médecin. On lui confie beaucoup de sa vie privée puisque tous les mouvements de fonds justifient quand même notre vie privée. Il a demandé ce renseignement. C'est une opération exceptionnelle pour lui. Vous pensez bien que ça se passe à l'étranger, ça se passe sur Internet. On ne peut que croire la version de Nicolas quand il s'est présenté à sa banque en disant « Veuillez vérifier l'approvisionnement du chèque. Pour moi, c'est déterminant. » Parce que c'était ensuite à lui de supporter 7000 euros de frais de transport. Et c'est ça qui, aujourd'hui, le met dans cette situation insoutenable vis-à-vis de son banquier.
Bon, alors, dans quelques instants, nous allons attaquer d'autres cas. J'aimerais juste demander à Marjorie, est-ce que du côté de l'autre dossier Crédit Mutuel avec cette histoire de...
Lucienne.
De Lucienne et cette histoire de procuration, on a du nouveau?
On n'a pas encore de nouveau, mais c'est en bonne voie, puisque Lucienne doit prendre rendez-vous avec sa banque pour lui demander des explications claires et nettes, et ensuite, elle entamera des procédures judiciaires si jamais rien ne se passait. Non. Donc c'est une affaire à suivre pour nous.
Et puis je vous tiens au courant de mes conversations avec Nicole dont je parlais tout à l'heure, qui m'envoie des mails d'amour. Un nouveau vient d'arriver. Je pense, comme le dit M. Courbet, alors c'était une blague Nicole, car nous avons gagné je crois 14% d'audience entre septembre, octobre et novembre, décembre. Mais j'aime bien faire un peu d'autodérision. Je pense, comme le dit M. Courbet, que si RTL perd des auditeurs, RTL n'a cessé d'en gagner. Hein. C'est à cause des âneries de cet animateur. Voilà une émission que j'écoutais depuis son début, que je trouvais assez bien menée, mais que, depuis un certain temps, devient insupportable par l'imbécilité de cet animateur. Ça, c'est un truc nouveau, vous voyez. Mais je prends acte et je vais essayer d'être moins bête à l'antenne, ce qui ne sera pas facile pour moi, car je pars de très loin. Je crois que tout le monde en est conscient. C'est même mission impossible. A tout de suite sur RTL, 32-10.
Chaque matin dès 9h30, RTL, ça peut vous arriver.
Une petite parenthèse pour le cas de Benoît, hein, qui se retrouve avec des factures habituellement de 490 euros tous les deux mois, avec une facture de 4922. Et là, on lui dit, bah, écoutez, payez les 4922, on déduira si erreur il y a eu, et lui, il ne veut pas. Et nous essayons d'avoir quelqu'un chez Poéo, ce qui est très compliqué. Bernard, ça fait maintenant combien de temps qu'on a la musique?
C'est-à-dire, c'est surtout la deuxième fois que je réexplique toute la situation de Benoît à quelqu'un de chez Poéo, qui me dit, maintenant, je vous mets en attente et on vous répond, et j'attends.
Bon, alors vous, Benoît, est-ce que vous avez réussi à un moment ou à un autre à expliquer à quelqu'un votre cas?
Ah, à quelqu'un, oui, mais à chaque fois un standardiste avec un discours très procédurier. Je n'ai jamais été capable depuis maintenant
d'avoir un responsable.
D'avoir quelqu'un plus haut.
Bon, ok. Eh bien, écoutez, Benoît, nous, on va essayer de se battre pour vous, mais il faut insister dans ces cas-là. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je demande, il y a 4 jours de cela, un numéro, j'appelle à 118, vous savez, pour avoir les renseignements. Et je demande le numéro de la boucherie qui est dans ma rue. Donc, je ne suis pas idiot, ça fait 20 ans maintenant que je la connais, cette boucherie. Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle existe, je sais qu'elle a un numéro, mais je l'avais perdu. La jeune fille me répond, il n'y a pas de boucherie dans cette rue. Donc, je me mets à la fenêtre pour vérifier si elle n'a pas disparu dans la nuit, et je la vois. Je lui dis, madame, elle est là, le numéro, ils ont forcément le téléphone. Non, il n'y en a pas. Et là, je lui dis, bon, ben d'accord. Je lui dis, mais ce numéro, il ne va pas m'être facturé quand même. Ah ben si, monsieur. Et là, je lui dis, tiens, fais ton Courbet. J'ai demandé à parler à une responsable, donc ça a pris du temps, j'ai perdu 6 minutes, hein, je vous l'avoue. Une responsable est venue, la responsable a donné 2 coups de clavier, elle a trouvé le numéro de la boucherie. Je lui dis, voyez madame, si je n'avais pas insisté, je payais quand même une communication parce que vous n'étiez pas capable de... Voilà, puis ça c'est fini, par je l'ai invité à manger un steak.
Quand il fait son Courbet.
Mais non, mais c'est vrai, Charal. Attendez.
Charal.
Voilà comment ça s'est terminé. Allez, à tout de suite sur RTL, 10h37, Benoît, nous continuons, nous attendons des nouvelles de Poéo. Bonne nouvelle, nous avons, je crois, quelqu'un chez Poéo qui va pouvoir nous permettre d'avancer dans ce dossier. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour madame, ravi de faire votre connaissance. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'ai à mes côtés Maître Fellono, avocate.
Bonjour madame.
Et j'ai un de vos clients, Benoît Stévenin, qui est également en ligne. Alors, le problème, je pense que notre réalisateur vous l'a expliqué. Ce monsieur a des prélèvements de 490 tous les deux mois et il se retrouve avec 4922 tout d'un coup et on lui dit, bien payez, puis nous on fera le... On étalonnera...
On verra après.
On verra après. Et lui, il n'est pas tout à fait d'accord.
Et puis non. Puis surtout, le compteur a été relevé par un préposé qui a bien effectivement constaté qu'il y avait une erreur dans vos services et que la consommation d'électricité ne justifiait en rien la facture que vous lui avez
adressée. En trésorerie, c'est énorme, hein, pour une station de lavage. Donc voilà, comment peut-on avancer, madame ?
Alors, ça va être très simple. Nous, c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que les conditions générales de vente, elles précisent clairement que le client doit honorer sa facture, puis porter réclamation, et après, on trouve un arrangement. Donc ça, c'est vrai que c'est les conditions générales de vente. Maintenant, on n'est pas fermé par rapport à la résolution du problème. On met avant tout le consommateur en avant et le principal, c'est vraiment de satisfaire ce consommateur.
Sachant, madame, que oui, nous, on est bien d'accord. 2008, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le, là, nous, on le redit aux auditeurs, vous payez d'abord, mais à condition que le dossier soit traité dans les semaines qui suivent. Parce que vous imaginez, depuis le mois de mai, vous, en trésorerie, s'il l'avait payé, ça fait juillet, juin, bon, voilà quoi. Bon,
donc, le but aujourd'hui, ça va être de trouver la meilleure manière de satisfaire ce client et justement d'oublier ce litige qu'il rencontre aujourd'hui.
Alors, comment peut-on avancer ?
Pour avancer, ça va être très simple. Est-ce que ce monsieur dispose d'une autorelève de son compteur ?
Est-ce que vous disposez, Benoît, d'une autorelève de votre compteur ?
Oui, j'en ai une à l'instant puisque je suis sur place.
D'accord.
Je veux juste rajouter que ça fait 6 ou 7 autorélèves que je leur fais depuis le mois de mai et que je leur donne.
Allez, faites-en une petite huitième pour la route.
Allez, hop.
Alors attendez, peut-être que vous allez la donner hors antenne, l'autorelève. C'est long ou pas ?
Non, elle est là.
Allez, on y va. Vous notez l'autorelève, madame ? Tout le monde va. 2 millions de personnes vont assister pour la première fois à la radio à une autorelève.
Oh, quel grand moment
c'est
de radio.
L'autorelève by RTL.
Alors, je suis actuellement à 212 268 kilowatts. 268 kilowatts.
Il faut
268.
Oui. Il faut se mobiliser, on peut faire plus.
Sachant, madame, que votre technicien, enfin le technicien de RDF qui est passé relever le compteur le 9 octobre 2008, a lui noté 193 587 kilowatts.
C'est tout à fait normal avec l'augmentation.
Exactement, exactement.
Bon, comment avance-t-on, madame ?
Bah écoutez, on va regarder la facturation et on va essayer de régulariser le plus rapidement possible.
Si vous pouvez, alors je ne vous demande pas de miracle. Si jamais vous pouvez d'ici 11h30, c'est formidable. Sinon, on retraitera ça demain matin. Je vous passe Bernard Gic.
D'autant plus, madame, qu'il a payé, puisque c'était par des prélèvements que vous avez faits. Là, il vient de les bloquer parce qu'il en a assez. Mais c'est vous qui lui devez 4 615 euros. Lui, il a payé. Donc, votre argument premier, qui est difficile à admettre compte tenu du montant de la somme et du temps que vous mettez à traiter une réclamation de client, c'est cette fois-ci n'est même plus opérationnelle. Donc, il faut le rembourser.
Bon, en tout cas, madame...
Si on constate en effet une surestimation, naturellement, on va effectuer le remboursement.
Mais depuis le mois d'octobre, elle est prouvée par votre préposé. Bon. Et 6 ou 8 fois, là, c'est la 8e fois qu'il vous envoie ce relevé.
Ce que vous dire, maître Felloneau, c'est que normalement, ça doit aller vite. Là, vous jetez un coup d'œil et vous pouvez lui annoncer peut-être très rapidement la bonne nouvelle, si bonne nouvelle il y a.
Ça va être très rapidement, mais je préfère prendre tous les éléments du dossier
bien sûr. Allez,
de
okay,
manière correcte les éléments avant de m'engager sur une réponse.
Ça marche.
C'est important qu'on fasse les choses correctement.
Mais madame, si vous expliquez-nous au moins...
Pour rappeler naturellement très rapidement, je prends deux.
Mais comment vous expliquez qu'il ait fallu 8 fois ? Vous savez pas ça ? Ça fait 8 fois qu'il donne le.
Là de suite, c'est vrai que je viens de prendre connaissance du dossier.
Donc d'accord, allez, ça marche.
Je ne peux pas m'avancer sur ce qui est fait ou pas fait. Je ne peux pas en 2 minutes vous dire. Oui,
je comprends.
Tel jour, il y a eu ça. Malheureusement, j'ai pas tous les éléments.
Ça marche.
Maintenant, d'ici une demi-heure, je serai en mesure de vous dire exactement ce qu'il en est sur le dossier.
Allez, et vendu, ça marche. Alors, on s'appelle vers 11h15, 11h20. C'est très sympa à vous, madame, de nous avoir parlé. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure. Non, là, je vous passe quelqu'un. On va prendre le rendez-vous pour dans une demi-heure.
D'accord,
je vous passe Bernard. Merci. Allez Benoît, si tout va bien, dans une demi-heure, nous en saurons un petit peu plus.
Merci.
Et ça devrait avancer, d'accord ?
Merci.
À tout de suite.
Au revoir.
Merci. Dans quelques instants, là c'est Maître Felloneau que vous avez entendu, qui est ravi que le cas soit réglé. À chaque fois, il pousse ce petit cri strident. On va faire un petit coucou à Marie-Claude Poc, qui nous a envoyé un mail super sympa. Alors, je ne lis pas les mails sympas à l'antenne pour ne pas faire d'autosatisfaction. Je lui dis simplement merci. Je ne lis que ceux, si vous voulez que votre message soit lu,
envoyez-moi des injures.
Non, ne le faites pas, parce que je vous assure, il ne faut pas croire non plus que ça nous fait plaisir. Mais en tout cas, merci de ce soutien. Allez, Nicolas, dans quelques instants, avec cette histoire de Casa Immobilier que nous avons traitée hier, bigrement intéressant d'ailleurs. C'est rare qu'on ait d'ailleurs des cas intéressants dans l'émission, et je me rappelle qu'il y en a eu un hier. A tout de suite sur RTL. Nous revenons sur notre opération duplex d'hier. Est-ce que Nicolas est en ligne ?
Oui, bonjour Julien.
Bonjour Nicolas. Donc vous avez acheté une liste d'annonces d'appartements, on le rappelle, hier, mais aucune annonce ne correspondait à ce que vous étiez venu chercher. En deux mots, vous étiez tombé sur une annonce internet, l'appartement vous intéressait. Quand vous prenez contact avec l'agence, on vous dit en payant, c'était je crois...
250 euros.
Non seulement vous aurez cette adresse, le propriétaire, mais une liste complète.
Exactement,
d'autres adresses.
Vous achetez une liste.
Vous allez sur place, impossible d'avoir le propriétaire.
Sûr,
inconnu au bataillon, vous faites votre petite enquête sur internet et d'après également ce que vous nous dites, et je mets tout ceci au conditionnel, vous vous apercevez que cet appartement, le propriétaire l'aurait mis lui-même en direct, mais il ne ferait plus 12-14 mètres carrés comme le précisait l'agence, mais 8. Voilà, on en est là. Donc hier, on a tout essayé pour avoir Casa Immobilier et je crois qu'il il vous avait été rappelé après l'émission.
Oui, effectivement.
Je vous écoute.
Ils m'ont rappelé assez rapidement en fait, Louise, la personne qu'on a vue à l'agence hier matin, donc m'a contacté pour me dire qu'elle a vu sa direction, qu'ils avaient étudié le dossier, et qu'effectivement, la collègue s'occupait de mon dossier aurait fait des erreurs, et donc qui tranchait en faveur de ma demande et me remboursait.
Bon, eh bien voilà, vous voyez comme quoi il suffisait de se parler.
Ils respectent leur contrat qui prévoit qu'ils n'ont pas le droit d'encaisser les 250 euros si la liste n'est pas fournie, et une liste évidemment sérieuse avec des propriétaires.
Alors,
qui répondent
et
qui font visiter.
Des conseils à donner avant de s'engager pour une liste.
Bah, écoutez, moi je suis un peu surprise de ce procédé, mais c'est vrai qu'il existe, il doit correspondre à un service qui est attendu. Quand on n'est pas parisien, puisque ça se passe à Paris, et que l'on a besoin de se trouver un logement, c'est vrai que c'est très pratique d'avoir une liste à consulter et on fait des visites les unes après les autres. Bon, maintenant, il ne faut pas payer n'importe quoi, il faut tomber sur des gens sérieux. Donc ça, on le sait quand on a vérifié au sein même de l'agence, au moins en lui demandant, écoutez, prenez-moi 2 ou 3 rendez-vous avec les propriétaires dont vous me vendez les coordonnées sur cette liste, de façon à vérifier effectivement si, eh bien, il y a bien quelqu'un au bout du fil et que ça vaut la peine de débourser 200, 300, voire 400 euros, puisque c'est à peu près les prix qui sont demandés pour l'achat de ces listes-là.
Bon, en tout cas, c'est une histoire réglée pour vous. J'en suis ravi et merci à Casa Immobilier de l'avoir fait aussi rapidement. Je vous souhaite une bonne journée. Nicolas.
Merci à vous. Et merci
à bientôt.
C'est très, très sympa.
Très sympa, oui. Et puis jolie fille en plus. Mais
oui,
ça, vous ne l'avez pas vu?
Non, j'ai baissé les yeux.
Ah, non mais vous ne l'avez pas vu, vous avez pu jeter un petit coup d'œil quand même. C'était une sorte de cadeau de bienvenue quand même.
Oui, j'étais détendu après, ça allait mieux.
Parfait.
Ah, bah, dis donc,
ça va, hein, bonjour pour les opérations duplex. On ne vous en demande pas tant. Allez, c'est maintenant un nouvel auditeur qui va arriver peut-être sur l'antenne d'RTL, c'est Yvette. Yvette a déposé un lustre pour une petite restauration dans un atelier en avril 2008. Depuis, elle ne parvient pas à le récupérer.
C'est pas n'importe quel lustre, c'est un lustre hollandais.
Et alors ?
Et on va lui demander quelle tête ça a justement.
On va demander ?
À quoi ça ressemble ?
À quoi ça ressemble un lustre hollandais ?
Hollandais, oui.
D'accord.
Vous savez-vous à quoi ça ressemble ?
C'est un lustre avec, je ne sais pas, du fromage.
Et bien voilà, on
tout
va demander
suite
à Yvette.
Sur RTL, on va voir. À tout de suite, RTL 3210. Vous écoutez RTL, réglez vos montres à la seconde près, il est 11h.
RTL, c'est vous aider. Entraide, conseil, service, efficacité, appelez Ça peut vous arriver au 3210.
Nous avons Yvette qui est en ligne. Bonjour Yvette.
Bonjour.
Je suis ravi de vous parler Yvette.
Moi aussi.
Vous nous appelez d'où ?
De Marseille.
Alors Yvette de Marseille, il fait beau aujourd'hui ?
Oh, attends, super, mais il fait toujours beau à Marseille.
Ça, c'est vrai, mais il y a quand même des jours où le Mistral rafraîchit un peu. Quelle température aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a de quoi se mettre en maillot ?
Pas en maillot, mais on est bien en t-shirt.
Bon, quelle vénarde, hein, Yvette. En avril 2008, vous emmenez votre lustre hollandais dans un atelier de l'enseigne où vous l'aviez acheté 30 ans plus tôt pour une restauration et une mise aux normes. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'il a de particulier, le lustre hollandais ?
Bon, ben c'est un style. Bon, vous allez sur Internet, vous tapez lustre hollandais, vous verrez, il y a un style.
Bon, eh bien, nous le faisons tout de suite pendant que nous parlons.
Voilà.
Alors, on vous présente un devis, 250 euros. La personne mentionne bien par écrit que le lustre serait prêt pour le mois de mai, mais vous ne voyez rien venir et jusqu'au mois de novembre, vous téléphonez un grand nombre de fois pour venir aux nouvelles. À chaque fois, on vous donne justement de nouvelles excuses, problèmes de vacances, cahier de commandes surchargé. On finit par vous donner une date, il sera prêt pour janvier 2009. Vous demandez une confirmation par écrit. Elle n'arrive pas, vous envoyez donc un courrier le 12 novembre pour le redemander. Pas de réponse. Depuis, vous les recontactez fréquemment et à chaque fois, la personne sur laquelle vous tombez vous dit « Ne vous inquiétez pas, Oui, oui, vous allez la voir. Mais ils ne sont pas capables de vous donner une date et vous avez besoin d'RTL aujourd'hui. Alors, effectivement, j'aperçois... je vais demander à Bernard de bien vouloir rabattre un petit peu plus. Voilà, son computer que je puisse jeter au coup d'œil au lustre hollandais qui est magnifique. Donc, effectivement, ce sont quoi des... Comment pourrait-on décrire ça ? Des branches qui remontent, évidemment...
Qui forment des volutes.
Si je voulais être poétique, je dirais que ça ressemble un peu, oui, c'est ça, à des siphons déviés, quoi, quand on va dessous.
Oh, Yvette !
Non, c'est pas ça ? Mais c'est un peu cette forme-là, quand même, Yvette. Mais parce que je suis poétique.
Mais non, Yvette, dites pas oui. Vous voyez, c'est à cause de gens comme vous qu'après, il continue à faire l'andouille.
Il est en forme, notre Julien, aujourd'hui.
Oui, il est super en forme. Vous l'avez remarqué aussi, hein, il est brillantissime ce
bon,
matin.
Yvette, demandons à Maître Felloneau de bien vouloir dire à nos auditeurs quel conseil juridique et nous appelons ensuite pour vous.
Écoutez, là, le dépositaire a une obligation de restitution et même de restitution après avoir fait le... C'était de la de redécoration, ça veut dire quoi ? Redorer, puis remettre peut-être les fils électriques.
Au départ, ils doivent tout enlever le fil électrique qui est à l'intérieur des branches parce que c'est un fil de coton et qui n'est plus aux normes.
Bien sûr.
Ce n'est plus accepté maintenant.
D'accord.
Donc, ils doivent l'enlever et le changer et me le redorer.
D'accord. Alors, effectivement, voilà. Ils devraient vous le rendre après avoir exécuté le travail pour lequel vous avez confié votre bien. Ils ne font rien. Alors, au moins, ils devraient vous le restituer tel quel et vous restituer la compte puisque vous en avez assez
d'attente. Non, je n'ai rien versé. Mais c'est ça qui m'agace. Je veux récupérer mon lustre, mais attendez, ils se sont engagés à le faire. Ça
mais oui, bon. Alors il faut demander effectivement.
Attention. Oui, les établissements Gandelin à Vienne ?
Non, à Lyon.
À Lyon, alors à Lyon.
Ah, pardon, ça y est,
l'établissement Gandelin, à Lyon, c'est le magasin.
D'accord. Alors, c'est Julien Courbet à l'appareil, madame. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec l'une de vos clientes, Yvette Gaude, et avec Maître Felloneau, qui est là également. Alors, cette dame vous a confié un lustre, madame, il y a maintenant... Un an à peu près.
Alors attendez, je me permets de vous couper, je vais vous passer la direction.
Merci.
Ne coupez pas.
Yvette, je récupère le combiné, nous entamons le dialogue, nous résumons la situation et nous démarrons la négociation dans quelques instants. Restez en ligne, Yvette. Yvette ? Elle n'est plus là, Yvette. Yvette ? Mais vous ne me répondez pas, Yvette. Yvette, j'ai l'impression qu'à là-bas, à Marseille, vous avez les escargouillettes qui sont toutes mouillées, hein ? Non, on ne parle pas comme ça, c'est une image ? D'accord, à tout de suite, Yvette.
Oui, allô ?
Oui, Ah, nous avons les établissements Gandelin qui reviennent. Allô, les établissements Gandelin ?
Oui, bonjour.
Julien Courbet, bonjour monsieur, en direct sur l'antenne d'RTL.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur, ravi de vous parler. Yvette Gaude est en ligne sur l'antenne et nous dit qu'elle vous a confié son lustre hollandais pour une restauration il y a un an, quasiment. C'était au mois de mai. Elle n'a toujours pas de nouvelles. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement, Yvette ?
Je veux qu'on me restaure mon lustre et qu'on me le renvoie.
Alors voilà. Comment se fait-il, monsieur, que depuis le mois de mai, ce soit rien passé ? Il y a peut-être eu un souci ?
Peut-être, oui. Écoutez, je vais vérifier, parce que effectivement, ça paraît anormal qu'on nous confie un lustre au mois de mai, et que, étant au mois de mars aujourd'hui, n'ayant pas eu Madame Gaude au téléphone de... Enfin bon...
Attendez, elle vous a appelé plein de fois, monsieur.
Elle vous a écrit aussi, monsieur.
Elle vient sur RTL en dernière cour, elle vous a écrit et téléphoné. Combien de fois, Yvette ?
Ah, écrit, non. Non.
Moi, j'ai la lettre sous les yeux, hein, monsieur.
Ah bon ?
Bonjour, Maître Felloneau, l'appareil. Oui, c'est bonjour, une lettre simple, parce que les relations ne sont pas du tout venimeuses.
Oui, oui.
Et c'est quand même le 12 novembre où elle vous rappelle qu'elle vous a confié celui sur fin avril.
Ah bon ?
Que sur votre devis, il y a marqué que vous devez lui rendre fin mai.
Mm-hmm.
Voilà, que ça lui coûtera 250 euros. Et depuis, elle pleure après son beau lustre hollandais que son mari lui a offert et voilà, elle y tient beaucoup et elle voudrait pouvoir s'en servir.
Je comprends tout à fait.
Bon,
est-ce que je peux prendre les coordonnées, madame ? Je vais me renseigner.
Si vous pouviez juste, on finit l'émission à 11h30, si en 20 minutes vous pouviez juste nous dire ce qui est devenu ce lustre pour la rassurer ?
Il n'y a pas de souci.
Allez, je vous passe quelqu'un qui vous donne un numéro. Merci monsieur.
Merci monsieur Courbet.
Yvette, à tout de suite à Marseille pour des nouvelles du lustre.
Au revoir.
Non, pas au revoir, on va se parler tout à l'heure, j'espère, Yvette.
J'espère.
Allez, gros bisous. RTL 3210, ou bien ça peut vous arriver à @rtl.fr. Demain, spécial, voiture, PV, radar, achat, vente, assurance avec Maître de Caumont. Jeudi, spécial, voyage, loisirs, APS. Donc j'attends vos appels pour tous ces cas.
Opération Duplex en direct sur RTL.
Alors nous retrouvons Julie Poujol pour le cas de Jean-Marc et son assurance. Il est débité, il n'a rien signé. Il n'est pas débité, il est débité de 59 euros et on lui réclame maintenant l'intégralité. Julie, nous avons eu tout à l'heure Françoise Zikovic de MMA, directrice de la communication. Est-ce que vous avez du nouveau de votre côté ?
Pascal et ses collaboratrices, on a pu décortiquer le dossier. Donc, elles sont bien au courant, elles ont bien tout compris. Alors, il y a une petite question qui subsiste dans ce dossier. C'est qu'apparemment, sur ce qu'elle m'expliquait, une fois qu'on mandate un courtier, ce qu'aurait fait Jean-Marc, il pourrait signer à sa place. Donc, c'est là le problème.
Ah, c'est vrai que le courtier représente l'assuré et non pas l'assurance. Ça, c'est exact.
Oui, mais pour ça, il faudrait signer une délégation au courtier.
Non, mais ce que je voudrais savoir, moi, c'est quelle était la garantie qui était demandée. Parce que, visiblement, il y a une erreur sur la garantie qui est souhaitée par Jean-Marc et celle qui est accordée par la compagnie d'assurance, puisque l'objet du contrat, c'était de faire en sorte que les frais de séjour dans cette maison spécialisée soient pris en charge. Or, ils sont expressément exclus. Donc, il y a bien quelque chose qui ne va pas au moment de la conclusion.
Bon. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, demander à l'assurance, quand un courtier leur passe un acte, ils s'assurent peut-être eux-mêmes de savoir si le client... Enfin, je veux dire, sinon les courtiers pourraient passer
l'idée. Alors, effectivement, les deux points-là ont été abordés ensemble par téléphone ce matin avec le service de presse, mais on n'a pas réussi à joindre le courtier, donc il nous faut ces éléments de réponse par rapport à lui. Bon. Et ils nous promettent une réponse dans l'après-midi.
De toute façon, eux ont plus de facilité pour joindre Direct Courtage Marseille que nous, je suppose.
Oui,
hein.
Voilà, exactement. D'accord. Donc, il faut éclaircir les deux questions qui restent obscur, et dans ce cas-là, on aura la réponse cet après-midi, Jean-Marc.
Bon, ça marche.
Il m'appelle et je vous rappelle effectivement pour savoir si le document est valable ou pas et si le courtier a signé pour Jean-Marc. Dans ce cas-là, il n'y aura pas les remboursements.
Génial, Julie.
S'il y a un problème, il y aura les remboursements très rapidement.
Jean-Marc, vous avez donc entendu, puisque vous étiez là-bas.
Tout à fait.
Hein ? On va avancer avec vous très très vite. Vous pouvez compter sur RTL.
D'accord, mais alors un courtier a le droit de signer à ma place.
Non, attendez, on va vérifier avec lui.
Le courtier, monsieur, vous représente vos intérêts. Vous voulez...
La condition qu'on lui donnait.
Exactement, mais bon, les échanges montrent qu'il y a eu un véritable contact pris entre deux.
Jean-Marc, on va s'occuper de ça, je vous promets des bonnes nouvelles d'ici la fin de la semaine.
D'accord.
Je vous souhaite une bonne journée, Jean-Marc. Merci à vous. Merci, bon courage, Jean-Marc. Merci à Julie également. À tout à l'heure, Julie.
Bonne journée, à plus tard. Au revoir.
Alors, vous vous rappelez de Benoît, le client d'un fournisseur d'électricité depuis 2003, et cette erreur qui le fait passer de 490 à 4922 euros. Il va peut-être y avoir du nouveau, Bernard, car on va le traiter tout de suite. On me dit que Poewo est en ligne. Merci d'avoir été aussi vite. Ami de Poewo ?
Oui.
Alors, vous avez pu vérifier ?
Parfaitement, oui. Donc, on a repris donc, les éléments du dossier. Donc, il apparaît que oui, on a constaté que les données que nous transmettait le gestionnaire de réseau de distribution, comme vous savez, en fait, ils sont responsables du comptage, ils nous transmettent tous les relevés de compteurs. Donc, ils nous ont annoncé, donc, le service public nous a annoncé que on avait une relève donc, en mars 2008 qui était de l'ordre de 118 000 et cette relève était fausse. Donc, par la suite, ils nous ont transmis des données correctrices. Donc, ces données nous ont été transmises en octobre 2008 et étaient prévues pour être intégrées sur la facture de janvier-février. Mais, comme vous le savez, c'est des données en fait, qu'on intègre, enfin, vous le savez certainement pas, mais c'est des données qu'on intègre manuellement. Donc, c'est vrai que malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Ça a été pris en compte sur la facture suivante. Et donc, ça a pris un petit peu de temps.
Alors,
là, aujourd'hui... on a quand même de bonnes nouvelles à annoncer donc, aux consommateurs. La situation est régularisée. On s'est basé sur l'autorelève de son compteur pour effectuer donc, une facturation conforme et correcte. Et donc aujourd'hui, on peut annoncer donc, à ce monsieur que son compte est créditeur de 3613,05 euros, donc somme que nous allons lui restituer dans de très très brefs délais.
Merci beaucoup. Vous avez entendu Benoît ?
Oui, j'ai entendu. Oui.
Bon, donc le problème est réglé, il y a eu erreur rectifiée par Poewo. Voilà, Benoît. Merci, madame. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être intervenue aussi rapidement, surtout.
Je vous en prie, c'est tout naturel.
Bonne journée, au revoir.
Également, au revoir.
Bon, Benoît, tout est bien qui finit bien.
Tout est bien qui finit bien. Ça a juste pris 10 mois par Poewo, mais...
Vous allez l'avoir rapidement, Benoît.
Non, mais ce dont on s'aperçoit quand même, c'est que ces fournisseurs-là, ils ne sont pas du tout autonomes, puisqu'ils ont besoin des uns et des autres pour avoir des données, et que donc il y a un nombre de maillons incroyables dans cette chaîne, et donc source d'erreur, dont vous faites les frais aujourd'hui, mais c'est absolument anormal.
Ça râle. Merci, Benoît, d'avoir fait confiance à RTL.
Bonne fin de journée, merci à votre équipe.
Au revoir, à bientôt. Revoir.
C'est malin.
Mais quoi ?
Trop malin. Vous voulez vous attirer les foudres de toutes les auditrices ?
Je trouve.
J'appelle.
Vous trouvez tellement. tellement belle et délicieuse que je pense immédiatement à un beau tartare. Nous allons dans une seconde faire quoi ? Parler un petit peu de micro-trottoir. Et ça se passe dans une seconde sur l'antenne d'RTL 30-10. Merci aussi pour vos témoignages sympas hein, sur le net. Je voudrais remercier Gabriel de Saint-Pierre-de-Bailleul. J'aimerais remercier Étienne Favier. J'aimerais remercier Evelyne Solaire. Nous avons Steve et Heidi qui ont envoyé également un petit mail. Chantal. Nous avons Colette Mouche. Tout ça, c'est des super sympas hein, de les lire. Tenez, il n'y en a aucun pour vous, je vous les passe. Merci, Maître Felloneau. Je plaisante, ils sont tous pour vous. À tout de suite.
32-10, ça peut vous arriver. C'est chaque jour à 9h30 sur RTL.
Alors très rapidement, du nouveau pour Yvette et son lustre. Yvette, nous avons eu Gandelin, les établissements Gandelin à Vienne qui nous disent que ce n'est pas de leur responsabilité mais de celle de l'atelier. Alors je ne sais pas le rapport qu'il y a entre l'atelier et les établissements. Peu importe, ils s'engagent, d'après Sarah Free qui les a eu au téléphone, ils s'engagent à donner le lustre quand ?
Ben écoutez, ils s'engagent à rendre le lustre à Yvette à la fin de ce mois-ci, maximum début du mois prochain.
Voilà, d'accord Yvette ?
D'accord, et ben merci Julien.
Et on se tient au courant, je vous fais un gros bisou.
Moi aussi, au revoir.
Au revoir.
Et merci à tous.
Alors apparemment, c'est pas les établissements Grandin d'après ce que l'on vous a dit, Grandelin, mais l'atelier. Voilà. Après, c'est la différence entre l'un et l'autre, je ne le sais pas. Mais ce n'est pas grave, c'est le lustre qui compte. Ce week-end a eu lieu la 34e cérémonie des Césars. Cette année, une polémique aura retenu l'attention. Celle de Bienvenue chez les Ch'tis, le carton de l'année signé Danny Boone, 20 millions d'entrées, n'aurait pas eu, selon lui, la place qu'il aurait méritée. Nous sommes allés en discuter avec vous dans la rue. Alors pour Jocelyne, c'est vrai que c'est un peu dommage. On ne plébiscite pas que des films trop sérieux dans ce genre de cérémonie.
Oui, je trouve que c'est dommage qu'il ne soit pas récompensé plus que ça, parce qu'il y a quand même eu 20 millions de personnes hein, qui ont été le voir, c'est pas pour rien. Ben, il n'y a pas que lui, hein, je crois, tout le monde le dit. Hein. Mais dans le milieu du cinéma, apparemment, on ne passe que des films trop sérieux, et la comédie n'est pas assez représentée.
Car rappelons, Maître Felloneau, ils ont aussi le droit de faire les votes qu'ils veulent, que ce sont les professionnels.
Bien sûr.
Voilà, c'est pas les Césars, le problème c'est que c'est la seule cérémonie. Il faudrait créer, en fait, la meilleure solution, ça serait de créer une cérémonie où les téléspectateurs ou spectateurs du moins...
Je crois qu'attendez, en allant dans les salles à 20 millions, je pense que là, César. Sa consécration, elle est exceptionnelle.
Elisabeth trouve son compte dans les films représentés au César. Elle aime le cinéma d'auteur, mais elle avoue tout de même que c'est un peu dommage pour toute une partie du public. Nous lui avons demandé de nous proposer une solution.
Peut-être créer une catégorie de films très populaires ou très comiques, peut-être. Ce serait une bonne idée, je pense, oui. Parce que ce que j'attends d'un César, c'est plutôt un film plus esthétique, plus réfléchi, moins populaire que ça. Sans mépris, mais par goût personnel. Quoi.
Pascal, par contre, ne cautionne pas le coup de gueule de Danny Boone. De toute façon, elle n'était pas très fan des Ch'tis. Selon elle, ce film, il a d'ailleurs été, rappelons-le quand même, il s'est présenté à la cérémonie. Hein. Selon elle, ce film n'avait pas sa place dans la cérémonie des Césars.
Je suis pas sûre qu'en effet ce soit le nombre de millions d'entrées qui fasse la vraie qualité d'un film ou pas. Personnellement, c'est vrai que je préfère des films tels Séraphine, donc voilà. Oui, je pense que c'est bien que ce soit une académie qui décide de la qualité d'un film et pas uniquement le nombre d'entrées.
Oui, enfin, où est la qualité d'un film ? Après, j'ai l'impression aussi que ça, on pourrait en débattre pendant des heures. Hein. Kevin, qui a beaucoup aimé le film, aurait bien voulu récompenser son acteur favori. Il aimerait qu'on donne le droit de vote au public. Et on en revient à ce que je disais, peut-être organiser une cérémonie. Mais en fait, elle existe déjà, la cérémonie, comme l'a dit Maître Felloneau. C'est le billet d'entrée. Vous avez payé, vous avez été 20 millions à payer. C'est pas donné le cinéma aujourd'hui. Hein. Donc 20 millions, donc c'est la plus belle des choses qu'il ait pu avoir. Hein.
Ça doit faire quelque chose de se dire qu'on est le champion du box-office et que finalement, on n'est pas reconnu par ses pairs. C'est vrai que ça doit lui foutre peut-être un peu les boules. Après, nous, on le voit à la télé, c'est bien. Ils ont l'air de faire la fête entre eux. Mais bon, nous, on est un peu loin de tout ça. Peut-être que si on fait des Césars au milieu d'une place et que c'est les gens qui votent, les Ch'tis auront plus de récompenses. Donc, on verra bien.
Puis on peut voir aussi, hein, si on veut être un peu... Voilà, on peut dire aussi que ça permet de mettre des films, justement, peut-être moins connus en avant et de faire rentrer du monde dans les salles pour aller voir ce genre de film en se disant que Danny Boone, il en a eu suffisamment.
Mais je crois que les professionnels l'ont honoré, puisque c'est Will Smith qui vient de racheter les droits pour essayer de faire une adaptation américaine. Alors, ça doit être assez marrant.
Will Smith a racheté les droits des Ch'tis, il a racheté les droits de La Bonne Touche également. Ils veulent faire une adaptation.
Ah ouais. Mais ça va faire un carton,
avec
je le sens.
Bruce Willis, The Good Touch.
The Good Touch.
Avec un acteur américain, Melvin Foucault, dans le good, rôle de The Good.
Yeah. Et, Dustin.
Dustin, oui, tout
Dustin Hanouna.
Hanouna dans le rôle de The Touch.
Merci, hein, merci en tout cas, Julien, pour cet éclairage en cinéma. Hein.
Ah
merci.
Oui, nous essayons d'ouvrir un peu les horizons de l'émission.
Non, mais bravo, vraiment.
Demain, je vous apprendrai à faire un ourlet.
Merci.
Bon, est-ce que ça s'est bien passé hier? J'ai vu des tas de stars dans les studios de la Plaine-Saint-Denis et un prime qui s'annonce gigantesque avec le numéro 1 du rire.
Ah, je pense qu'on va beaucoup. En tout cas, on s'est marré. Hein. C'était Gad Elmaleh, ce sera le 14 sur TF1, ça samedi soir.
2 heures avec Gad Elmaleh, ça va être extraordinaire.
Oui, d'autant qu'on en a fait 6 d'heures, donc les deux vont être bonnes.
Vive la radio!
Allez, salut Julien!